Bien, bonjour à tous. Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui à la station Ozone Claire Jacquet. Vous êtes directrice du FRAC Nouvelle-Aquitaine MECA et vous êtes aussi écrivaine. Votre dernier roman, enfin votre dernier livre, qui est un premier roman écrit, vient de paraître aux éditions Confluence. Et nous sommes aussi très agréablement. Enfin, nous sommes très contents de vous accueillir, Caroline Fillon. Et vous avez travaillé depuis de nombreuses années au MAD de Bordeaux. Et vous êtes directrice des musées des Beaux-Arts de Libourne depuis mai 2020, juste pendant le confinement. Voilà. Et on vous reçoit à l'occasion de la sortie aux éditions Actes Sud de Vivante, sous-titré Réflexion critique sur la représentation des femmes dans l'art et son histoire. Et la première question que je veux vous poser, c'est d'abord Vivante, c'est avant d'être un livre, un recueil de textes, c'est avant tout un programme régional d'exposition. Est-ce que vous pouvez nous évoquer la genèse de ce projet et de quoi il est constitué ?
Je vais peut-être pouvoir répondre à cette première question en tant que directrice du FRAC, parce que c'est à l'initiative du FRAC Nouvelle-Aquitaine que nous avons lancé cette séquence vivante sur la place des femmes dans l'histoire de l'art, autant les femmes contemporaines, mais aussi plus anciennes. Et c'est pour nous un moyen de diffuser cette collection d'art contemporain sur l'ensemble de la région avec un petit... une règle du jeu hein, qui est d'investir des lieux qui ne sont pas toujours faits et dédiés à l'art contemporain, comme des musées des Beaux-Arts. Et à Libourne, nous avons pu être accueillis par Caroline Fillon et d'interagir avec des collections plus classiques, parfois préhistoriques même, et sur une même thématique. Voilà. Alors, ce petit programme nous a occupé 2 années. Sur toute la région, donc avec une quinzaine de partenaires très très différents, hein, autant une artothèque, un musée des Beaux-Arts, un préhistocyte comme à Brasse-en-Pouille, on aura l'occasion d'en reparler, et chacun tricote un petit peu un projet qui lui convient avec un angle différent. Et c'est tout le principe moteur d'une coécriture, c'est de pouvoir écrire ensemble, mais séparément. C'est un peu la couverture, d'ailleurs. Caroline me le faisait remarquer. Vivante, c'est voilà, les lettres sont un petit peu éclatées, on est tous ensemble, mais on est un peu chacun de notre côté. Ce qui a donné lieu, en fait, à une quinzaine de projets très, très différents et qu'on a eu envie de regrouper dans un livre parce qu'on a traversé tellement de questions... tellement de choses passionnantes qu'on a voulu les partager, voulu les rassembler, plutôt que de vous demander de suivre une quinzaine de projets que vous n'auriez sans doute pas vus sur les 2 années cause Covid aussi. Voilà, donc c'est un objet commun qui relie ce programme et qui a été d'ailleurs lancé à Libourne pour la première occurrence avec un très beau projet qui s'appelait « Confidentiel ». Dont Caroline va peut-être pouvoir nous parler.
Oui, effectivement, une exposition qui avait ouvert en octobre 2020, donc qui est restée ouverte très peu de temps, malheureusement, mais qui a quand même permis, effectivement, d'engager, en fait, ce processus un petit peu. Effectivement, c'est un programme, effectivement, on se retrouve, on va finalement essayer de fédérer nos ressources, nos œuvres autour de ces thématiques, autour de ce projet. Et ça nous permet surtout, nous, en tant que partenaires, de changer notre regard un petit peu sur notre collection, en tout cas de redécouvrir aussi les œuvres de nos collections. Et en l'occurrence, Confidentielle, présenter en fait des rencontres un petit peu inopinées, un petit peu impertinentes parfois, d'artistes femmes, des collections du musée de Libourne et des collections du FRAC. Donc un dialogue s'engageait un petit peu entre ces artistes, entre leurs œuvres, un dialogue un peu fictif et qui permettait d'évoquer différentes thématiques ou différentes questions, en tout cas liées à la place des femmes dans l'art et son histoire.
Le sous-titre de Vivante, c'est Réflexion critique. Mais pourquoi mis critique entre parenthèses ?
Joker. Alors non, écoutez, critique, c'est parce qu'on avait envie d'alléger, je pense, ce mot souvent qui fait peur. Ce sont des réflexions diverses et variées qui sont néanmoins critiques, enfin, qui sont des points de vue, en fait, parce que le livre est traversé par une quinzaine de points de vue très différenciés, qui ne sont pas toujours, d'ailleurs, des commissaires de chaque exposition. Hein. Il y a eu pas mal d'invitations faites à différents auteurs. Je pense à Sonia Recassens, notamment, qui a pu explorer la collection du FRAC pour essayer d'analyser la place des femmes dans cette collection. Ou Camille Paulhan, qui a aussi livré une étude sur cette phase de l'après-émergence, quand les femmes sont dans cet âge d'une bonne quarantaine d'années et souvent qui ont des charges de famille et qui ne se voient pas toujours offrir les mêmes possibilités que les hommes à ce stade-là de leur carrière. Donc il y a des compléments aussi qui viennent illustrer un petit peu ce panel d'expositions, comme le disait Caroline, qui sont des conversations avec des œuvres du FRAC et puis des œuvres plus anciennes. Ce qui est assez drôle aussi, c'est que l'idée de cette coécriture vivante nous est venue par une personne du Musée des Beaux-Arts d'Agen qui nous a fait la même remarque que l'ancien directeur de Libourne, à savoir que les collections de musées des Beaux-Arts en province étaient souvent assez riches d'artistes femmes, assez bien dotées, alors qu'elles étaient sous-représentées à Paris. Et j'ai eu l'occasion d'en parler avec des conservateurs parisiens. Et ils m'ont dit, en effet, parce qu'au moment où on a fait ces dépôts en province, donc à la fin du XVIIIe siècle, on a gardé à Paris le meilleur, c'est-à-dire les artistes hommes, on a gardé les Géricault, on a gardé les Ingres, etc. On a gardé les Vigée Lebrun parce que elle était quand même déjà très connue. Et puis on a fait partir les œuvres d'artistes femmes plus facilement dans les musées des Beaux-Arts en province. Je trouve ça assez amusant de vous relater cette petite anecdote parce que c'est assez significatif aussi.
Oui, puis c'est vrai que les musées dits de province ont vu leur collection augmenter grâce aux dons, souvent de particuliers, et les artistes femmes, les œuvres d'artistes femmes ont souvent été, ils sont parfois encore toujours moins chères sur le marché, et donc souvent on les retrouve aussi dans les collections privées qui viennent comme ça compléter en fait les collections publiques des musées de province. Et sinon, la moyenne en 2021, à partir en fait des données connues, c'est-à-dire la base Joconde qui nous permet de verser en fait nos inventaires informatisés sur une base nationale, c'est 6% en fait de présence d'artistes femmes dans les musées dans les musées français.
La plupart des textes ont été écrits par des femmes et la conception graphique par Fanette Méliès. Est-ce que c'est un choix délibéré ou c'est le hasard?
Vous êtes là, heureusement, David, sur le plateau. Non, on a évidemment plein d'hommes qui font partie de ce projet, de cette aventure, notamment Nicolas Boone, qui a réalisé un film sur Rosa Bonheur. Il y a eu des invitations. Bon, ça n'est pas calculé, en tout cas, mais il y a aussi Cyril Vergès qui a conduit toute cette édition au FRAC avec nous. Nous n'excluons personne.
Et juste pour finir sur les textes en général, ils sont de nature très hétérogène. Il y a effectivement des entretiens. C'était un choix aussi de faire pas que des essais, en fait.
Ah oui, tout à fait. Alors moi, j'accorde beaucoup d'importance aux entretiens. J'ai une formation d'historienne et ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut toujours s'attacher aux sources et revenir à ces sources-là. Et du côté de l'art, c'est la parole des artistes. Donc l'entretien, c'est aussi une manière très vivante d'approcher l'œuvre des artistes vivants. Et dans notre cas, ils le sont, donc profitons-en. Donc il y a quelques entretiens et puis effectivement d'autres articles comme Jacques Jaubert et Valérie Ferruglio qui ont écrit sur les représentations de la femme à l'époque de paléolithique, parce que c'était des spécialistes et qu'ils n'étaient pas forcément en mesure de pouvoir faire des entretiens avec des femmes préhistoriques, malheureusement.
Bah justement, on va passer sur une première image, sur la représentation, les premières représentations de l'humain, en fait, ce sont des femmes. Et est-ce qu'on peut parler du fait que les premiers préhistoriens ont dénommé les statuettes féminines, une grande partie, les Vénus. Pour quelle raison?
Parce que c'était des hommes. Non, c'est ça qui est intéressant dans toutes ces questions de genre qui se posent à nous et qui, aujourd'hui, sont très, très actuelles. C'est vrai que c'est intéressant de s'interroger sur les dénominations. Et je pense que les hommes ont appelé les Vénus, ou sont partis en tout cas d'un vocabulaire lié à la mythologie, et ont transposé ces termes-là dans le champ de la préhistoire, et que la plupart étaient des hommes. Et voilà.
Et aussi, en fait, finalement, la représentation d'une femme, très vite, elle est assimilée à une espèce de canon de beauté. Et le canon de beauté suprême, c'est la Vénus. Ce sont les Vénus pudiques de l'Antiquité. Et par opposition, en fait, ou par contraste, ces Vénus de la préhistoire étaient des Vénus impudiques, puisque autant les CDS et ces statues de l'Antiquité cachaient tout ce qu'il ne fallait pas voir, tout ce qu'il fallait soustraire au regard, tandis que les vestiges qui sont retrouvés de cette période, au contraire, montrent que la représentation de la femme passait justement par la représentation de la mère, l'évocation de la fécondité, etc. Et c'est vrai que Vénus, c'est presque une sorte de marque de fabrique. La femme est un canon de beauté quand elle est représentée, donc Vénus, donc et c'est lié en fait à une sorte de champ lexical qui a enfermé justement un petit peu la représentation des femmes au cours de l'histoire.
Mais c'est même qu'avec les déesses mères, c'est-à-dire enfermer la femme dans l'espèce de procréation, c'est-à-dire la création de côté des hommes, la procréation pour les femmes. Déjà, c'est une espèce de dichotomie.
Oui. Non, alors si vous remarquez bien, la femme représentée, elle est muse, elle est déesse. Elle est Vénus, c'est fantastique. C'est-à-dire qu'on lui confère un pouvoir presque spirituel énorme. Alors si on voulait filer la métaphore, elle aurait un pouvoir temporel, à contrario, quasi inexistant. Donc c'est assez étonnant de voir quelle place elle occupe dans la représentation, dans la projection, voire dans le fantasme un petit peu, par rapport à la place qu'elle occupait réellement dans la société, en tout cas à partir des sources que l'on connaît, puisqu'on en a très peu, au moins pour la préhistoire que pour d'autres périodes.
Mais c'est vrai mais aussi il y avait des visages, avec on voit la dame à la capuche à l'écran, mais on l'a attribué à une femme, mais c'est pas une certitude non plus.
Tout à fait, oui. Enfin, vous voulez dire dans son visage, hein. Oui, on peut tout à fait imaginer que ce soit un adolescent aussi ou un jeune homme. Hein. D'ailleurs, elle est assez étonnante parce que. C'est un petit peu le même principe que la Joconde, c'est-à-dire que vous avez un sourire qui est à peine esquissé. Le sourire n'émerge qu'à partir du nombre porté qui est creusé par les joues. Alors là, la photographie n'indique pas forcément ce sourire, mais voilà, il y a une forme de magie sur cet objet, mais minuscule, hein, de la taille d'un pouce. Hein. Qui est conservée à Saint-Germain-en-Laye, au musée d'archéologie nationale, et qui, en définitive, a été trouvée dans les Landes, dans notre région. Alors, ça fait partie aussi d'une spécificité de ce livre, qui est de s'intéresser à toutes les ressources liées à notre région. Hein. C'est la raison pour laquelle on s'est un petit peu... on a voulu faire revenir cette figure dans ce livre-là. Et c'est la représentation de la femme la plus ancienne du monde sculptée. Il y a des visages peut-être féminins peints à différents endroits, mais c'est vraiment la représentation aujourd'hui, hein, parce qu'on n'est pas à l'abri de nouvelles découvertes, mais ce serait le portrait de femme peut-être la plus ancienne qu'on ait de l'humanité entière. Donc c'est quand même très troublant.
Et pour parler des statues d'artistes femmes, on peut aussi imaginer que finalement les artistes préhistoriques étaient aussi des femmes. Les études ont bien montré qu'il y avait des moments où les mains négatives étaient probablement en majorité des mains de femmes. Donc on peut aussi imaginer que mais sauf que le discours, on n'imagine pas. Enfin, automatiquement, on pense à des hommes créateurs.
Ouais. Les mains négatives, il y a eu des recherches. Hein. En fait, ça pourrait correspondre à des femmes ou des mains graciles de jeunes adolescents. Enfin, voilà. Donc là aussi, le mystère reste entier. Hein. En tout cas, cette Vénus de Brassempouille, c'est peut-être un portrait de femme ou de jeunes garçons, avec une possibilité aussi qu'elle soit sculptée et faite par la main d'une femme ou d'un homme. Enfin, voilà, c'est tout est rien ne sera démontré ce soir.
Exactement. En tout cas, même si on sait qu'il y a eu des femmes artistes tout le long de l'histoire, de l'Antiquité au Moyen-Âge à la Renaissance, enfin, en tout cas, le statut, ça a toujours été difficile pour des femmes pour pouvoir accéder au statut d'artiste. Pour quelles raisons et comment celles qui ont réussi, comment elles ont réussi?
Alors oui, ça a été un chemin semé d'embûches, alors que même dans, on va dire, la mythologie de l'histoire de la peinture, c'est une femme dans l'Antiquité qui la première, en l'occurrence Calliroe de Sicyone, qui la première aurait représenté en fait le portrait de son courtisan à partir de l'ombre projetée de la tête de ce dernier sur un mur. Ça c'est un petit peu dans la mythologie ce qui raconte la naissance de la peinture, du dessin en tant qu'activité. Réfléchie, humaine, etc. Mais finalement, oui, de tout temps, il y a eu des femmes artistes, très certainement, mais elles ont eu plus de mal à accéder à la renommée, à accéder à la formation. C'est ça qui était aussi compliqué, puisque finalement, les circuits de formation étaient réservés aux hommes, qui eux-mêmes pouvaient diriger un atelier, pouvaient signer des toiles. Et dans les ateliers, il y a toujours eu des femmes, mais qui étaient plutôt les petites mains, qui préparaient par exemple les pigments, qui préparaient les différents matériaux. Il faut aussi faire attention, parce que finalement, on raisonne avec nos mots d'aujourd'hui, mais le mot « art », à la base, enfin, l'étymologie, c'est réaliser, c'est fabriquer, c'est un savoir-faire, c'est une expertise. C'était finalement, on mélangeait un petit peu l'artisanat et ce qu'on appellerait nous aujourd'hui les beaux-arts. Les beaux-arts, l'aspect artistique, il naît à partir de 1648 et l'apparition de l'Académie. Donc avant, pour fabriquer, pour créer, pour préparer, c'était mixte finalement. Mais le chef d'atelier, celui qui dirigeait, était un homme parce que les corporations ne donnaient pas de rôle aux femmes. Et tous ces ateliers relevaient de l'artisanat, donc des corporations et donc d'un système très strict qu'une femme ne pouvait pas, dont une femme ne pouvait pas faire partie. Donc déjà, voilà, ça les a vraiment bloqués pendant au moins jusqu'au XVIIe siècle en tant que pratique professionnelle. Après, il y avait aussi la question de finalement de toucher à ces domaines-là les femmes qui avaient une activité artistique étaient souvent des femmes qui étaient nées dans un milieu artistique dont le père était peintre, l'oncle, le frère, etc. et qui ont travaillé dans l'entreprise familiale finalement et se sont formées et avaient un don particulier qui a été repéré et celles-ci pouvaient effectivement accéder à des statuts un petit peu plus importants, enfin toute proportion gardée. Tout va changer vraiment, une première grande étape à la Renaissance, puisque la Renaissance va voir émerger vraiment de grands mécènes qui vont commencer à acheter alors autant des œuvres antiques que des œuvres contemporaines de l'époque. Et ces grands mécènes vont payer des artistes pour des commandes. Et une artiste femme se distinguait, il n'était pas exclu que ces grands mécènes contribuent à sa renommée, ce qui est le cas, par exemple, de Sophonisba Anguissola, qui est devenu portraitiste officiel de la cour d'Espagne. Et là, on est au XVIe siècle. Voilà. Donc, tout ça évolue très, très doucement.
Et Artemisia Gentileschi en Italie pour la Renaissance, qui est peut-être la femme la plus très importante femme artiste, et là, voilà, qui vient justement d'un milieu de peintre, hein, avec un père qui l'a formée, des frères aussi. Et on le voit ensuite de la même manière pour Elisabeth Vigée-Lebrun ou même Rosa Bonheur. C'est des femmes qui échappent complètement à une scolarité, on va dire, classique, mais qui sont bénéficiaires au sein d'un milieu familial favorable. En France, les femmes artistes n'ont pu intégrer que des ateliers de formation à la fin du 19e siècle, des cours qui étaient privés. L'Académie Julian, par exemple, ou l'autre atelier dont j'ai oublié le nom, dans lequel Camille Claudel était. Et ce n'est qu'au début 20e où l'École des Beaux-Arts de Paris a admis des femmes sans qu'elles puissent aller dans certains cours, enfin dans tous les cours. Certains cours de nu leur étaient interdits. Voilà, elles allaient à la bibliothèque pour s'occuper pendant ce temps-là. Enfin voilà, donc ça a été un petit peu un petit peu lent.
Oui, c'est ça. Le nu, c'est l'académie, c'est la base en fait de la formation. Et les femmes étaient complètement exclues de ces cours, même dans le cadre d'une formation privée. C'est 1901 l'autorisation pour les femmes officiellement d'accéder à des cours de nu. Après, certains artistes le faisaient dans leurs ateliers, comme Chaplin, par exemple. Mais voilà, c'est quand même extrêmement tardif. On va entre 1648 et la fin du 18e siècle, avoir à peine 15 femmes qui vont intégrer l'Académie des Beaux-Arts. Et quand on lit en fait les rapports des salons, les rapports de l'Académie, pour chaque femme qui est présentée, on s'interroge, ah oui, mais son mari est sculpteur, ah oui, mais tiens, comment elle est arrivée là? Enfin, voilà, il y a toujours un doute en fait. On remet toujours en question la présence d'une femme dans ce milieu-là. Et le 19e siècle va faire évoluer les choses, parce que tout bouge un petit peu aussi au 19e siècle. Les ateliers privés, les ateliers d'artistes deviennent un tremplin véritablement phénoménal pour les femmes, puisque souvent, eh bien, les parents de ces jeunes filles vont mécéner l'artiste et son atelier en échange de la formation de la jeune fille en question. Mais officiellement, voilà, 1901 cours de nu, 1903 on les autorise à concourir au prix de Rome, sinon elles n'avaient pas le droit avant. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est hier, hein. 1901-1903, c'est hier.
Ce qui est intéressant dans ce que dit Caroline, c'est que finalement, les femmes ne bénéficient pas de la même manière, de la même formation, mais elles existent en fait. On découvre énormément d'artistes toujours aujourd'hui, voilà, qui ont pu se frayer un chemin malgré tout. Donc c'est la naissance des artistes femmes, elle n'est pas récente, elle a toujours existé, sauf qu'on a un nouveau regard maintenant sur elles et on les évalue un petit peu différemment parce que justement elles sont sorties des sentiers battus. Et d'ailleurs, voilà, je reviens à l'histoire de la fabrique, très 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 important et très intéressante parce que elles ont longtemps été copistes. Elles étaient là pour faire des copies de tableaux qui partaient ensuite dans d'autres musées. Et, enfin, l'exercice de la copie, c'est comme le nu, c'est une des bases de la formation académique. Donc, elles étaient tout à fait capables.
Alors, on parle des artistes femmes, mais même quand elles ont été célèbres, certaines ont été oubliées. On peut parler évidemment de Rosa Bonheur, puisque effectivement, elle était célèbre en son temps. Mais elle a relativement été oubliée ou cantonnée, espèce de peintre, voilà, de vache, et comme on l'a cantonnée dans un sous-genre, en oubliant effectivement son immense talent. Est-ce qu'on peut parler un peu de Rosa Bonheur, finalement, de l'exposition? Qui veut en parler?
Alors, Rosa Bonheur, moi, c'est une femme qui me fascine complètement parce qu'elle a eu une reconnaissance à l'époque, mais extrêmement rapide, avec des galeristes anglo-saxons qui se sont entichés d'elle. Elle a pu vendre très, très vite en Angleterre et aux États-Unis, pays beaucoup plus sensible à ses tableaux. Voilà, qui versait dans la nature, les paysages, les animaux, alors qu'en France, il y avait ce phénomène qui était de capter cette modernité qu'on rattachait inéluctablement aux villes, aux chemins de fer, aux architectures métalliques. Voilà, donc on retrouve ça chez Caillebotte, chez ces artistes masculins. Et elle, voilà, elle défraye la chronique. En plus, voilà, elle vit avec une femme. La puissance financière, finalement, qu'elle arrive à dégager lui permet d'une sorte d'autonomie de travail qui est assez fascinante, parce que voilà, elle achète ce château de billes près de Fontainebleau, et puis elle s'entoure d'animaux et qui sont ses principales sources d'inspiration. Première femme aussi à avoir été décorée de la Légion d'honneur, ça dit beaucoup sur cette époque-là qui l'a reconnue, mais ça dit beaucoup aussi des historiens d'art de l'époque, qui sont souvent aussi des hommes et qui ont eu tendance à la minimiser, ou en tout cas à la cataloguer et la ranger dans une catégorie de peintre animalière. Avec une forme de mépris, voilà, tout à fait. Et on la voit ressurgir aujourd'hui, mais c'est absolument pas étonnant, parce que l'époque aujourd'hui s'intéresse autrement à ce rapport à la nature, ou en tout cas se questionne sur ce rapport à la nature, et c'est aujourd'hui qu'on la redécouvre là, par l'intermédiaire d'une une autre voie, en comprenant combien les deux époques différentes, deux choix différents, deux regards différents. Tout ça est très intéressant, et c'est aussi la richesse des musées des beaux-arts de prendre en considération ce qui a été reconnu à une époque, ce qui peut être les moins aujourd'hui, ce qui le sera beaucoup plus tard, et travailler, réfléchir à ces œuvres-là en fonction de son époque.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire de prendre la température de ce qui se passe, mais de savoir ce qui s'est fait avant et d'anticiper sur ce qui sera intéressant plus tard. Mais ce que tu disais, je pense aussi, est crucial dans le fait que beaucoup de femmes ont eu du mal à percer, parce qu'elles n'ont pas eu forcément de mal à accéder. Alors, la pratique, oui, mais elles ont pratiqué. Mais après, c'est la médiatisation, on pourrait dire, autour de leur travail qui a péché. Et Rosa Bonheur, en fait, elle a investi un domaine qui, aux yeux des hommes, n'était pas concurrentiel, il n'y avait pas de danger. Elle n'était pas dans la peinture d'histoire, par exemple. Donc, finalement, on l'a un petit peu laissée tranquille. En même temps, on l'a un petit peu méprisée à l'époque, mais elle a pu sortir son épingle du jeu. Et effectivement, souvent, les artistes femmes avaient la possibilité de faire des portraits, avaient l'opportunité de faire des petites natures mortes. Il n'y avait pas de danger, ça gênait personne. Donc, elle a pu percer dans un domaine qui n'était ou très peu concurrentiel et pour les hommes.
Il y a une vidéo de Nicolas Bonne qui accompagne l'exposition Rosa Bonheur. Est-ce que vous nous en parlez de cette vidéo ?
Oui, alors c'est un film qui a été réalisé il y a un an et demi dans la région à Tonneins, en Lot-et-Garonne. Nicolas Bonne a eu envie de faire un portrait de Rosa Bonheur avec un certain nombre d'acteurs qui n'étaient pas professionnels, qui se sont renseignés sur cette figure d'artiste et qui ont, à leur manière, fait le récit en s'appropriant ce personnage. Donc là, on voit à l'écran Lise Guéneux, qui est une critique d'art, mais qui a pris la parole au nom de Rosa Bonheur en racontant son histoire. Et le principe de Nicolas était assez particulier, parce que le film a été tourné dans une maison recouverte de tableaux qui n'étaient pas des tableaux de Rosa Bonheur, mais d'une époque qui pouvait raconter un petit peu cette époque, ce style-là. Et chaque plan est traversé par la présence d'animaux en tout genre. Donc vous avez vu un bœuf qui n'était pas empaillé, hein, qui était vraiment là, qui a pu rentrer dans le salon, un cheval. Voilà, il y a eu un mini lion ou lionceau, lionceau, voilà, un perroquet. Et puis on avait le maire de Tonneins qui venait lui remettre la Légion d'honneur. On avait un maquignon qui venait aussi parler un petit peu de la manière dont Rosa Bonheur pouvait investir les marchés aux chevaux pour saisir ces sujets hein, sur le vif. Voilà, donc c'est une forme de portrait un peu décalé, qui n'est pas un film documentaire, mais un film d'artiste. Un artiste qui parle d'une artiste avec ses 200 ans de décalage. Et voilà, ça fait toute la surprise. Et là, au fond, c'est dans la prise de distance par rapport au personnage et qui en fait un personnage très moderne, pas empêtré de conventions, très féministe, bien sûr, et même, oui, très engagé, finalement, dans une forme de reconnaissance de son statut d'artiste, comme le disait Caroline, en creusant sa voix sur un sillon qui lui était entièrement libre.
Pour continuer notre balade vers les femmes artistes, je vous avoue, je ne connaissais pas du tout Eva González. Alors, effectivement, en regardant quelques-uns de ses tableaux, enfin, c'est évident qu'elle a un talent aussi extraordinaire que celui de Berthe Morisot et Marie Cazat. Alors, qui était Eva González et pourquoi n'a pas la reconnaissance qu'elle mérite? Il faut absolument une exposition d'Eva González.
Oui, je suis d'accord. Et vous n'êtes pas le seul, malheureusement, à méconnaître cette pauvre Eva. Effectivement, elle est contemporaine de Berthe Morisot, de Marie Cassatt. Elle a effectivement un talent égal, si ce n'est en certains points même un petit peu supérieur. Elle a été très reconnue en son temps, mais à la fois sa vie personnelle et puis les difficultés générales qui sont liées au parcours des femmes artistes ont fait que sa carrière et sa renommée ont coupé court. Alors, je vais vous la présenter un petit peu. Donc, Eva González, alors elle est née à Paris, en plus, elle naît là où il faut quand on veut réussir à l'époque. Dans une famille en plus d'artistes, ou en tout cas dans un milieu intellectuel, puisque sa mère est musicienne-chanteuse, son père est feuilletoniste pour Le Siècle et d'autres grandes revues. Il est même cofondateur et président de la Société des gens de lettres. Donc vous voyez que c'est quand même un noyau, une intelligentsia propice à pousser, à transporter cet artiste en herbe à la portée au nu. Elle va intégrer des ateliers dès l'âge de 16 ans. Donc c'est très jeune, en plus atelier de Chaplin qui était très connu, et elle va faire une rencontre un peu décisive grâce justement au salon et aux rencontres de qu'elle peut faire dans le salon familial. Elle rencontre Manet, et vous savez que Manet n'a pas d'élève, ne prend pas d'élève, et bien Manet décide de prendre Eva González comme sa seule et unique élève. Et elle va en parler, elle va apprendre auprès du maître. Elle va effectivement être alors influencée. On a projeté en ce moment un tableau d'Eva, le jeune enfant de troupe, et un tableau de Manet, le Fifre. Donc vous voyez qu'on est sur une thématique effectivement qui est liée, mais on n'est pas sur une copie. On a évoqué le fait que les femmes copiaient beaucoup dans les ateliers. Là, on n'est clairement pas sur une copie, ni dans le style, ni dans l'objet qui est représenté. Et son enfant de troupe, Eva González, le présente au salon de 1870. Et son travail est salué de manière unanime. Il y a des articles dithyrambiques dans la pièce, alors qu'au même moment, Manet, lui, présente au salon un portrait d'Eva González, justement, un portrait représentant Eva González. Et là, les critiques disent « Oh, Manet, il n'a rien compris, il lui a fait des bras trop gros, ça part dans tous les sens. » Mais par contre, son élève, Eva González, devrait donner des cours au maître. Donc voilà ce qu'on lit dans la presse. Donc cette relation, elle va pourtant rester assez saine, c'est-à-dire que Manet va épauler Eva. Manet, lui, ne veut pas, malgré ses évolutions dans son style, présenté au salon des impressionnistes, donc Eva refusera aussi. C'est peut-être là une première erreur, peut-être un mauvais choix qui a été fait à ce moment-là. Il faut dire qu'elle a eu une formation très académique et classique avec Chaplin. Elle veut à ce moment-là, d'après ce qu'on sait d'elle et ce qu'on lit d'elle, réussir de manière classique, réussir en fait aussi comme un homme. réussir sans sortir des sentiers battus. Et ça explique en partie pourquoi elle ne veut pas présenter au Salon des impressionnistes. Seulement à la fin du 19e siècle et à l'aube du 20e, l'avenir de l'art, il ne se joue plus dans le parcours classique, il se joue dans la marge, il se joue au niveau de la marge. Et pile au moment où on accepte les femmes dans le parcours classique, eh bien, la future histoire de l'art, elle ne se joue plus à cet endroit-là. Et ça, c'est aussi un indice clé, en fait, un peu pour comprendre cette difficulté à accéder à la renommée. Et alors, je me suis beaucoup attachée à ce personnage en écrivant cet article, mais je vais essayer de faire court. Cette Eva présente à plusieurs reprises dans les salons donc des tableaux qui sont salués. Là, celui qui est projeté représente la loge aux Italiens. Et ce tableau, en tout cas cette scène, cette composition, elle ne nous est pas étrangère. On a tous l'impression d'avoir vu un tableau un petit peu de ce type. En fait, à l'époque, la même année, on est en 74, elle le prend au salon 75, la même année, Renoir sort une scène où l'on voit deux personnages au balcon avec la jeune femme qui regarde avec ses jumelles et puis le jeune homme derrière. Cette scène... elle s'inspire d'un tableau de Manet, mais qui représente des jeunes femmes à un balcon, qui lui-même, ce tableau, s'inspirait d'un tableau de Goya. Et Manet, plus tard, va reprendre ce tableau d'Eva González et s'en inspirer pour créer un dessin, cette fois-ci au fusain, qu'on connaît mieux en fait, au fusain, où on peut trouver le visuel plus facilement, qui représente Eva González qui a posé pour lui dans une loge aux côtés d'un monsieur. Donc vous voyez que finalement, on n'est plus du tout sur la question de la copie, on est sur la question presque de la citation, du renvoi, de l'hommage entre des artistes, qu'ils soient hommes ou femmes, qui s'appréciaient et qui approuvaient le talent des uns et des autres. Donc, ce qu'on peut interpréter faussement comme une copie encore des artistes femmes dans la seconde moitié du XIXe siècle, c'est plutôt en fait un mouvement assez général qui montre au contraire que les femmes commençaient à être reconnues au même titre que les hommes. Et cette Eva va se marier à Henri Guérard, qui est un aquafortiste reconnu. Donc, vous voyez que quand même, elle accumule un petit peu les difficultés. Hein. Femme d'artiste, mais elle ne va pas vivre dans l'ombre de son mari. Seulement, à un moment, elle va vouloir avoir des enfants. Et la question de la maternité, elle est aussi importante dans le sujet qu'on traite, dont on parle ce soir. Et donc, elle va se retirer un petit peu de la folie parisienne. Elle va partir en Normandie, à Dieppe, où ils avaient aussi un petit pied-à-terre. Elle va faire d'ailleurs des vues de la plage de Dieppe magnifiques. Et s'éloigner de Paris, quand on veut réussir à l'époque, c'est toujours un petit peu dangereux. D'autant plus qu'elle va malheureusement mourir très jeune, à l'âge de 36 ans, en mettant au monde son premier et unique enfant. Et quand j'ai rédigé ce petit article, il y a une annonce dans la presse de l'époque qui m'a beaucoup marqué et que j'ai retranscrit. Puisque après la mort d'Eva González, son père fait tout pour qu'on lui rende hommage. Il fait une exposition à titre posthume, il publie de nombreux articles, et un article dit, voilà, Eva González, qui a été fille de Monsieur González, Emmanuel González, qui a été épouse de Henri Guérard, qui a été élève de Manet, et qui est morte en devenant mère de son fils. Voilà. Et ça, je trouve ça... assez horrible, mais ça résume bien toutes les difficultés des femmes à percer dans ce domaine.
Et ce que tu as oublié de dire, Caroline, c'est que le tableau magnifique là, qu'on a vu et qui ressemble assez au Fifre est au musée de Villeneuve-sur-Lot. Voilà. Donc, vous pouvez voir dans notre région.
Je voudrais évoquer un texte, peut-être le plus, je trouvais le plus émouvant en fait dans le recueil de Vivante. En fait, c'est une conversation entre Véronique Blanchard et Anne Geoffrey, le photographe, autour de la mémoire des jeunes filles de l'école de préservation de Cadillac. Qu'est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet? Ouais.
Oui, alors Agnès Geoffrey, c'est une artiste qui a l'habitude de travailler sur des femmes. Qui sont dans des situations contraintes. Et dans la région, nous avons le château de Cadillac,
qui a longtemps été la première prison pour femmes en Gironde, puis une maison de préservation de jeunes filles. Donc là, il m'a semblé qu'il y avait un matériel suffisamment intéressant pour lui proposer de venir faire une résidence à Bordeaux pour consulter à la fois les archives départementales de Gironde et travailler aussi à Cadillac. Et ça a été l'occasion pour elle de redécouvrir un portfolio d'Henri Manuel, un photographe qui avait été dépêché dans les années 1930 pour faire une sorte de reportage sur cette maison de préservation qui en fait préservait les jeunes filles de l'extérieur et d'elles-mêmes. C'était des filles en situation soit de mauvaise fréquentation, soit de vagabondage, soit parfois de femmes, jeunes filles qui avaient été victimes d'inceste, hein, donc qu'on soustrayait à la société pour et pour les envoyer dans ces maisons de préservation. Et Henri Manuel, dans les années 1930, couvre différents lieux en France qui recueillent ces jeunes filles en faisant un petit peu l'apologie de ces établissements qui finalement les traitaient relativement bien, leur apportaient une éducation, etc. Donc le portfolio d'Henri Manuel est très intéressant, c'est quasiment de la propagande de l'époque. Et Agnès Geoffrey, en menant toute une enquête, en essayant de retrouver ses parcours de jeune fille, est tombée sur des histoires absolument un peu incroyables et a pu retravailler des mises en scène avec des étudiantes de l'École des Beaux-Arts de Bordeaux. Et en retrouvant ces différentes scènes composées par Henri Manuel et en les réactualisant un petit peu de façon différente, où on voit que le corps est quand même dressé avec cet uniforme, avec ces différents mouvements de corps dans l'espace, où à chaque fois il y a une forme de discipline un petit peu qui les enserre et qui les contiennent. Voilà, donc très beau travail qui aujourd'hui est dans la collection du FRAC, puisque nous avons acheté cette œuvre là et puis deux autres qui viennent compléter l'ensemble, dont une d'ailleurs qui est assez forte, où Agnès Geoffrey a pu retrouver une série de qualificatifs dans les archives qui étaient toujours négatifs, hein, des qualificatifs donc hideuses, menteuses, voleuses, etc., qu'elle a pu inscrire ensuite sur des gants de cuir pour parce que ces mêmes jeunes filles étaient amenées à réaliser des travaux manuels, hein, qui était ensuite vendu. Enfin, il y avait une forme d'exploitation aussi de ces femmes à cette époque-là pour des travaux de couture.
Il y a un chapitre en fait, qui s'appelle Men's Club, qui est un travail sur l'acquisition du FRAC. Justement, comment le FRAC a travaillé la visibilité des artistes femmes ?
Alors, le FRAC. Alors moi, quand j'arrive en 2007, donc il y a une quinzaine d'années, alors je prends connaissance un petit peu de la collection et je réalise pas tout de suite, hein, mais assez rapidement quand même, je m'aperçois que les femmes représentent à peu près 11% de la collection, donc finalement assez peu. Et très vite aussi, je m'engage dans une politique d'acquisition, mais qui ne cherche pas à rectifier le tir, parce qu'on ne peut pas rattraper l'histoire, bien sûr. J'essaye un petit peu de comprendre quels ont été les choix et finalement comment les femmes, certaines femmes artistes ont pu rentrer, celles les plus connues ont pu rentrer. C'est-à-dire que Annette Messager, on l'a pas ratée, Katharina Frisch non plus, Rosemary Trockel non plus, notamment aussi Karen Knorr. Et en revanche, voilà, pour les hommes, les artistes très connus, on ne les a pas loupés non plus, mais d'autres un peu moins intéressants ont pu intégrer la collection. Et aujourd'hui, les femmes représentent à peu près 29 à 30% de la collection. Donc on a eu ce souci de qui n'a pas été forcée, hein, qui est qu'aujourd'hui, on est dans un mouvement où les femmes sont bien plus présentes qu'auparavant dans les expositions, dans les galeries, sur les foires, se sont professionnalisées, ont davantage de considération. Bon, on porte ce mouvement, ou en tout cas, on l'accompagne, ou on le stimule, et c'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir des très, très beaux, très, très belles pièces. Voilà, on est dans une forme de vigilance avec un léger retard, je dirais, par rapport à certains pays. Hein, il faut pas se gargariser. Hein. On est en 2011 quand le Centre Pompidou ouvre une exposition qui s'appelle Elle, hein, au pluriel @centrepompidou. Donc c'est oui, c'est il y a 10 ans, alors que la représentation des femmes a été davantage soutenue, défendue, notamment aux États-Unis, hein, par un collectif qui s'est appelé les Gorilla Girls et qui venait vraiment sur des actions un petit peu impressionnantes et violentes, occuper le terrain, le parvis des musées. En réclamant le droit d'entrer au musée avant d'avoir 80 ans, le droit d'entrer au musée sans être forcément nue sur un tableau, mais d'être aussi du côté des créateurs. Voilà, je pense qu'il y a eu une tiédeur en France qui correspond aussi à une forme de prudence et à une forme de croyance aussi, où finalement les choses sont assez normales. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on aurait pu aussi davantage forcer ou appuyer, défendre, et une prise de conscience qui s'est finalement faite plus tardivement. Voilà.
Justement, pour le travail de Bernadette, qui a beaucoup œuvré en fait pour la découverte d'artistes femmes, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Oui, tout à fait. Alors, Marie-Laure Bernadac, elle est dans le livre. On a pu réaliser un entretien avec elle parce que Marie-Laure, alors conservatrice en chef, notamment du musée Picasso, qui a longtemps été aussi au CAPC et qui a beaucoup soutenu le travail de Jenny Holzer, de Cindy Sherman, de Louise Bourgeois, enfin, qui a été une conservatrice très attentive à certaines artistes femmes et qui notamment s'est beaucoup intéressée à leurs écrits. Et c'est ce qui nous a semblé très intéressant dans cet entretien, c'est de revenir un petit peu à cette part écrite, voire secrète, hein, qui n'émerge pas toujours dans les livres d'histoire de l'art ou dans les catalogues, et où souvent c'est une mine d'informations et une mine d'inspiration aussi pour certaines. Je pense à Annette Messager, la relation à l'écriture est plutôt très très forte et présente dans son travail. Donc voilà, là vous avez un petit dessin de Louise Bourgeois juste avant.
Messager pour le coup.
On finit en beauté, David.
Avec la confrontation entre Louise Bourgeois et Messager.
Voilà, tout
donc
à fait.
C'est le choix, vous avez confronté les œuvres, voilà, vous avez fait un travail graphique de présentation, parce que nous allons peut-être revenir sur celle-ci.
Oui, alors c'est un livre qu'on a mis dans les mains d'une graphiste, qui est plus qu'une graphiste, je trouve, qui s'appelle Fanette Mélier, et qui sait incroyablement jongler avec le matériel iconographique qu'on peut lui confier, et c'est elle qui a créé ses vis-à-vis, et celui-là je le trouve particulièrement réussi. Vous avez à gauche la femme à la capuche de Brassempouille, et puis le portrait, un autoportrait de Zanele Muoli, une artiste sud-africaine qui réalise énormément d'autoportraits, et voilà une œuvre de la collection du FRAC qu'on a choisi justement parce que le portrait s'attache pas forcément à dévoiler toute la complexité de la chevelure et de la coiffure africaine, voilà, sans s'attacher forcément à cette caricature-là, mais voilà, qui est un personnage un petit peu resté dans l'ombre et dans son mystère de cette identité noire.
Voilà.
Après, une autre confrontation, évidemment, assez étonnante.
Oui, tout à fait. Alors, juste pour ceux qui ne la connaîtraient pas, cette photographie de Robert Mapplethorpe, de Louise Bourgeois. Louise Bourgeois qui pose là, à l'âge de 80 ans, je pense, avec une sculpture qu'elle a réalisée elle-même, et qui s'appelle Fillette. Voilà, je vous laisse interpréter.
Et là, c'est deux confrontations entre Nicolas Chidrel, qui a eu une exposition au FRAC il n'y a pas longtemps.
Elle est toujours en place. Si vous ne l'avez pas encore vue, venez vite avant le 20 août, parce qu'elle est absolument magnifique. C'est une rétrospective d'une artiste franco-américaine, essentiellement peintre, donc avec ce très beau triptyque, triptyque Onegin, une scène d'opéra, parce que c'est une artiste qui a à la fois traversé le punk, mais aussi l'opéra, qui est une folle d'opéra, et qu'on a confronté là avec une photographie, enfin une image extraite du film de Nicolas Boone.
Et là encore, très beau portrait, enfin une œuvre d'Eva González qui est magnifique.
Oui, effectivement, qui s'inspire voilà, de ses années avec Chaplin, où elle a beaucoup travaillé sur l'intime. Je pense que l'intime, c'est aussi un mot important à retenir, tu l'évoquais pour les écrits, mais finalement, qui est mieux placé qu'une femme pour parler effectivement de son parcours. Et en observant en fait là les confrontations, j'avais presque envie de revenir à la première question sur le sens du critique. Dans le titre, en fait, pour faire un bon critique, il faut aussi savoir observer, enfin voilà, se nourrir de différents avis et en même temps avoir un regard distancié. Et c'est en ça que le livre, pour moi, est assez épatant, c'est que il réunit des formes très différentes d'intervention, des interviews, des articles, des sortes de reportages aussi. Mais tout est pensé et bien pensé. Tu parlais de Fanette aussi, la manière dont les visuels se rencontrent fait qu'il y a quand même une démarche critique, entre parenthèses, c'est-à-dire une démarche d'analyse, mais qui laisse la place en fait à chacune des interventions d'exister pour elle-même. Et moi, je l'interpréterais comme ça.
Une dernière question pour vous, quelles seraient les grandes artistes femmes du XXe siècle, du début et du XXIe à choisir?
Ah oui, mais choisir du coup, c'est compliqué. Pourquoi choisir aussi une artiste femme? Enfin voilà,
plusieurs.
En revient finalement au cœur de la question.
Mais plusieurs.
Alors moi, j'ai une grande tendresse pour Tamara Lampicka, voilà, et pour la période Art déco. C'est toujours l'idée de se dire, voilà, quelle femme artiste on va citer, quelle femme on va choisir. Finalement, avec ce livre, on n'a pas envie de se dire, tiens, je la choisis parce que c'est une artiste femme. Je la choisis parce que son travail me plaît, etc. Donc moi, ce serait Tamara.
Moi, j'aurais du mal aussi à vous répondre. Et je m'en sortirais par une pirouette en vous disant, venez au FRAC plus régulièrement, vous les découvrirez. Voilà.
Mais merci beaucoup. Merci d'être venu pour nous présenter ce beau livre. Merci.
Merci à vous.